Seigneur, c'est toujours un bonheur pour nous de nous tenir devant toi. Seigneur, pour te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Ta parole déclare, Seigneur, que notre âme, notre esprit a besoin de ce qui sort de ta bouche pour être véritablement nourri. Nous connaissons, Seigneur, toute l'importance que représente ta parole dans nos vies. Dans ce monde de plus en plus plongé dans les ténèbres, dans ce monde, Seigneur, où nous assistons à une montée des antivaleurs, il est plus qu'indispensable aujourd'hui de s'attacher fermement à ta parole, cette parole qui reste et demeure notre seule lampe, Seigneur, à nos pieds, ô Dieu, la lumière qui nous éclaire sur le sentier de la vie. Nous bénissons ton nom pour ce privilège de pouvoir, dimanche après dimanche, Seigneur, recevoir quelque chose de ta part. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, une fois de plus, de te demander de nous aider, ô Dieu, à nous focaliser sur toi, à avoir une attention soutenue, alors que ta parole sera prêchée. Ce matin, nous te demandons, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses rendre vive, Seigneur, notre intelligence, afin qu'elle puisse nous permettre de saisir ta parole. Cette parole qui est feu, Seigneur, venant de ta part, cette parole qui est esprit, cette parole qui est vie, cette parole qui est efficace, cette parole qui seule est capable de nous transformer, Seigneur, de nous transfigurer et de nous faire ressembler en toi. Parle-nous, Seigneur, et dépose cette parole dans nos cœurs. Merci, Jésus. Oins ton serviteur, assiste-le, ô Dieu, soutiens-le, Seigneur, afin que tout ce qui sortira de sa bouche ne soit qu'oracle à ta gloire, afin que, Seigneur, tout propos qui sortira de sa bouche soit des propos qui vont dans le sens, Seigneur, de ta vérité. Merci de nous arroser de ta parole, de souffler par ta parole, de nous réchauffer par ta parole, d'attendrir nos cœurs par ta parole. Nous te le demandons, Seigneur, en ton nom, Maître. Amen. Gloire au Seigneur. Bien. Ce matin, je voudrais parler de la nécessité de garder notre conscience pure et irréprochable, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et comme nous allons le voir, eh bien, nous ne pouvons pas progresser dans la vie, nous ne pouvons pas nous attendre à de grandes choses de la part du Seigneur, si nous ne comprenons pas le lien vital, le lien inébranlable qu'il y a entre la conscience, la foi et l'amour que le Seigneur attend de chacun de nous. Alléluia. La conscience. On en parle peu, et pourtant, elle reste, mes amis, quelque chose de fondamental pour l'homme. Elle est déterminante dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi notre message de ce matin est intitulé « Garder sa conscience pure ». Alléluia. Ou en d'autres mots, avoir une bonne conscience alors que nous poursuivons notre marche vers l'éternité, alors que nous marchons avec les seigneurs, alors que nous vivons avec les hommes, alors que nous travaillons d'une manière ou d'une autre. Nous sommes donc appelés à avoir une conscience irréprochable, une conscience pure, une conscience, je dirais, sincère, sans hypocrisie. Et pour cela, je voudrais lire avec vous dans la première épître de Paul, au chapitre 1er, la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, en Timothée 1, nous allons lire le verset 5 et puis ensuite les versets 18 et 19. Nous lisons « Le but de cette recommandation ou le but de cette injonction, le but de cette prescription, eh bien, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie, c'est-à-dire sans feinte, irréprochable. Verset 18, de nouveau, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que, d'après ces prophéties, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Rien que dans ces deux passages, mes amis, nous voyons tout de suite toute l'importance, toute la nécessité de pouvoir veiller sur notre conscience, parce que il y va de notre vie de foi. Parce que sans une bonne conscience, il est impossible de garder, de tenir, mes amis, de conserver le mystère de la foi, comme nous allons le voir. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience ou d'une conscience pure, et d'une foi sincère, sans feinte, sans hypocrisie. Voilà donc, mes amis, ce qui va constituer la base de notre réflexion ce matin. S'il y a quelque chose que nous devrions retenir, s'il y a le commandement par excellence que nous devrions connaître, quand bien même nous serions frappés d'une amnésie quelconque, un commandement qui est quelque part l'épitomé ou le résumé de toute la révélation, eh bien c'est ce commandement que nous trouvons dans la parole de Dieu qui résume tout, je dirais, qui résume toute la révélation. C'est d'ailleurs la réponse que le Seigneur avait donnée à un scribe qui était venu, un homme qui connaissait la loi, qui l'étudiait, un homme d'une certaine érudition, une autorité religieuse, un homme d'une certaine respectabilité. Cet homme a posé la question au Seigneur, mais maître, dites-nous un peu quel est le plus grand commandement. Il y en a plusieurs. On trouve à travers toute la Bible toutes sortes d'injonctions de la part du Seigneur que nous appelons des commandements moraux ou autres. Et le Seigneur lui répond, eh bien, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un, et il ajoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, mes amis, le résumé. Voilà ce qui résume toute la révélation biblique. Si nous prêchons dimanche après dimanche, si nous voulons que les gens connaissent Dieu, et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est pour amener chacun de nous à aimer Dieu véritablement. Alléluia. Oui ou non? Eh bien, nous devons aimer Dieu. Il attend de nous que nous l'aimions. Mais cependant, nous devons aussi comprendre que cet amour dont nous avons besoin pour aimer le Seigneur notre Dieu, pour aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes, eh bien cet amour-là, mes amis, ne peut pas être produit par des efforts humains. Cet amour est au-delà de la raison humaine. Cet amour, mes amis, ne tombe pas sur nous par hasard. Cet amour naît lorsque certaines conditions sont remplies. Alléluia. Il faut donc que des conditions soient remplies pour qu'enfin cet amour dont nous avons besoin pour pouvoir aimer notre Dieu, pour pouvoir aimer nos frères et sœurs, pour pouvoir aimer le monde, eh bien, il faut tout cela pour que cet amour devienne une réalité pour nous. Toute l'Écriture sainte souligne la prééminence de l'amour, c'est la seule des vertus qui est appelée à rester éternellement. La foi, nous en avons besoin maintenant, car lorsque nous serons dans sa présence, lorsque nous serons introduits dans la gloire,
nous n'aurons plus besoin de foi, puisque nous le verrons tel qu'il est. Nous le connaîtrons de manière parfaite. Gloire à Dieu. L'espérance, eh bien, elle aussi, tant que nous sommes ici, dans ce corps, nous avons besoin de cette espérance. Mais quand nous aurons quitté ce corps et que nous l'aurons rejoint dans la gloire, nous n'aurons plus besoin d'espérance, oui ou non. Mais la foi est la seule vertu, mes amis, qui existe avant la fondation du monde, qui existe dans la création, maintenant, dans le temps, et qui continuera au-delà du temps, dans l'éternité, parce que l'amour est intimement lié à la personne de Dieu. Alléluia. Aimer Dieu de tout notre cœur, aimer Dieu de toutes nos pensées, de toute notre force, et aimer aussi notre prochain. Voilà, mes amis, c'est à quoi nous devrions aspirer plus que tout. Voilà ce qui devrait être la priorité de notre vie. Grandir dans l'amour de Dieu, mes amis. Grandir dans l'amour du prochain, dans l'amour fraternel. Voyez-vous? Et tout ce que le Saint-Esprit fait en nous, c'est pour nous amener à développer cette capacité à aimer Dieu véritablement. Et l'amour de Dieu, mes amis, n'a rien à voir avec le fait de ressentir quelque chose. C'est vrai, dans l'amour, les sentiments sont impliqués. Mais l'amour, c'est plus que les sentiments. Alléluia. Voyez-vous? Il est donc important que nous le comprenions, car nous venions tous des cultures différentes, d'horizons différents. Chacun a son parcours personnel. Chacun le produit de sa famille, de sa culture. Et selon notre culture, eh bien, nous avons été façonnés d'une certaine manière. Nous avons développé une certaine vision de ce qu'est l'amour. Voyez-vous? Et à partir de ça, nous pensons que c'est ça aimer. Aimer notre prochain, aimer notre Dieu. Eh bien, pour aller plus vite, nous avons besoin de comprendre cet amour-là. Gloire à Dieu, alléluia. Mais avons-nous vraiment compris cet amour? Puisque la Bible déclare que Dieu est amour. C'est une des plus belles déclarations, mes amis, de la parole de Dieu. Au-delà de tout, il est amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible d'ajouter, si Dieu est amour, eh bien, pour aimer Dieu véritablement, il faut naître de lui. Alléluia. Il faut naître de Dieu pour pouvoir aimer Dieu. Et naître de Dieu n'est autre que naître de nouveau. En d'autres mots, un cœur naturel ne peut pas véritablement aimer Dieu. Un homme peut avoir ressentir une émotion envers Dieu au travers de la pratique de sa religion, mais l'amour, c'est plus que cette émotion. Il faut connaître Dieu, il faut être avec Dieu, il faut être né de Dieu pour pouvoir aimer. Alléluia. Et la nouvelle naissance nous donne cette capacité. Mes amis, par la nouvelle naissance, nous avons ce potentiel de pouvoir aimer Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre, écrivant à Timothée, et au-delà de Timothée, voilà pourquoi le Saint-Esprit, s'adressant à l'Église, non seulement de l'époque de Paul, mais aussi l'Église d'aujourd'hui, eh bien, le Saint-Esprit nous dit, le but de cette injonction, le but de cette recommandation, c'est l'amour. L'amour grand A, qui vient d'un cœur pur, d'une conscience pure ou bonne conscience, et d'une foi sans feinte, c'est-à-dire sincère. D'une foi sans hypocrisie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, mes amis, l'amour dont nous avons besoin, comme je viens de le dire, cet amour dont nous avons besoin pour aimer Dieu, pour aimer notre prochain, aimer notre conjoint, notre épouse, notre mari, nos enfants, aimer notre pays, voyez-vous, aimer le monde au point de prendre le risque d'aller annoncer la parole de Dieu souvent dans des contextes très très difficiles d'hostilité, eh bien cet amour-là qui est l'oxygène du royaume de Dieu, cet amour-là provient ou coule d'un cœur pur, d'une conscience pure et d'une foi sans hypocrisie. Gloire au Seigneur. Cet amour qui est le lien le lien de la perfection, comme Colossiens 3:14 nous le dit, eh bien cet amour provient de la conjugaison, de l'interaction, de la conjonction de ces trois éléments que sont le cœur pur, la bonne conscience et la foi sincère. Alléluia. Cet amour qui est le plus précieux de toutes ces vertus. Ce trio magnifique que nous trouvons ici parle donc d'une pureté et d'une intégrité qui produisent la forme d'amour désintéressé la plus exquise, la plus noble et dont l'expression ultime n'est autre que l'amour de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mes amis, il y a tant à dire sur cet amour. Et quand on parle de cet amour par rapport à l'homme, on ne peut pas s'empêcher de parler de la pureté du cœur, de parler d'un cœur pur. Et il y a tant à dire sur le cœur pur, mes amis. Comme vous le savez, dans le sermon sur la montagne, dans cette partie consacrée aux béatitudes, au macarisme, le Seigneur dit, dans Matthieu 5:8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. » Vous voyez, mes amis, c'est une priorité pour nous. Nous devrions plus courir après la pureté du cœur qu'après n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de chacun de nous sur les deux autres vérités que nous trouvons dans ce passage, à savoir une bonne conscience et une foi sincère. Et en particulier, je voudrais donc m'attarder sur la nécessité d'avoir une bonne conscience, d'avoir une conscience irréprochable, d'avoir une conscience pure. Car, à travers toute l'Écriture, et en particulier dans le Nouveau Testament, parce qu'en hébreu, nous n'avons pas d'équivalent du mot conscience, eh bien, dans tout le Nouveau Testament, nous pouvons voir, je parle du mot, mais le concept est toujours là, nous voyons qu'il y a un lien vital, un lien étroit. Il y a donc un rapport entre ces deux-là, c'est-à-dire entre la foi et la bonne conscience. Ça veut dire que si notre conscience est une conscience, qui est constamment exposée à toutes sortes de pensées négatives, si notre conscience nous reproche, mes amis, il est donc impossible que dans ces conditions-là, notre foi puisse croître et nous amener à expérimenter des choses avec le Seigneur. C'est quelque chose d'important, mes amis. C'est une vérité fondamentale de la parole de Dieu. Car nous voulons tous expérimenter des choses avec Dieu, oui ou non? Qui veut expérimenter des choses avec Dieu? Je suis le premier à lever mes deux mains, voyez-vous? Mais toute expérimentation de choses de la part de Dieu passe par la foi. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de nous approprier, mes amis, des prophètes, de prophéties et des promesses de Dieu. Donc la foi est fondamentale. Mais ce qu'on a oublié, et ce qu'on oublie souvent, c'est le lien qu'il y a entre cette foi et la conscience. Voilà pourquoi, quelquefois, malgré toute notre bonne volonté, malgré notre connaissance, et dans la plupart des cas, théorique, superficielle, intellectuelle de la parole de Dieu, nous n'arrivons pas à vivre de choses extraordinaires. On peut mémoriser un verset biblique, le réciter comme un perroquet, sans que cela puisse être l'expression de notre foi. Sans que cela, mes amis, arrive à nourrir notre foi. Voyez-vous? On peut le réciter, on peut dire n'importe quoi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit. Réciter cela est en train de commettre le péché. On peut avoir lu dans la parole de Dieu que Dieu est saint, qu'il hait le péché, et se retrouver en train de draguer une fille ou un garçon. Voyez? Donc nous devons faire attention. Quant à la nécessité de la conscience, Les deux vont toujours ensemble. Ils vont toujours de pair. Une foi sincère dans une conscience pure. Une foi sans hypocrisie dans une bonne conscience, dans une conscience irréprochable. Ça veut dire qu'une foi forte, et nous voulons avoir cette foi forte, oui ou non, qui déplace les montagnes. Alléluia. Une foi forte est toujours associée à une bonne conscience tout aussi forte. Alléluia. Et inversement, une foi faible engendre automatiquement une conscience affaiblie. Voyez? Nous trouvons donc en effet, dans la parole de Dieu, des passages qui soulignent, qui mettent en évidence ce lien étroit, ce rapport irréversible entre la foi et la conscience. Puisque nous voulons expérimenter des choses par la foi, alors il est important, mes amis, que nous comprenions ce que la Bible a à nous dire concernant notre conscience. Car ça ne sert à rien de vouloir chercher des prophéties, recevoir des visions, tant que notre conscience n'est pas irréprochable, tant que notre conscience nous reproche toutes sortes de choses. C'est ainsi que la parole de Dieu nous encourage à garder, à conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. C'est très simple. Mais comme malheureusement la Bible, d'ailleurs la Bible dit, les gens aiment des choses un peu sophistiquées sur le plan spirituel. Ils aiment un peu de choses étranges, bizarroïdes. Voyez-vous? Alors là il y a la puissance. Voyez, on a tellement banalisé. Les gens sont dans une telle confusion que même la notion de puissance, eh bien, est mal interprétée. Voyez? Il y en a qui pensent pour qu'il y ait la puissance de Dieu, il faut que les gens tombent. Mais Jésus n'a pas fait que tomber les gens. Quand il a nourri les gens sont tombés. Donc je vous pose la question. Pourquoi prendre un seul passage de la Bible? Un seul passage où il y a une expérience d'un démoniaque qui tombe, qui est agité, pour en faire une doctrine. C'est ce qu'on appelle une hérésie. Voyez? Quand il a nourri les gens, il y avait combien à peu près? Eh bien, malgré le nombre élevé, on leur a même demandé de s'asseoir. Pierre n'a pas jeté sa veste sur eux. Touch. Et l'anglais tel que nous le connaissons n'existait pas. Parce qu'il a beaucoup évolué, la langue des angles, comme... C'est ça anglais, hein? C'était la langue des angles. Eh bien, non, on a demandé à ces gens-là de s'asseoir. Et le Seigneur a fait le miracle, il n'y a pas eu... Du boucan, de tonnerre, des agitations, des trémoussements, des délires prophétiques. Pas du tout. Oui, voilà. Mais il y a eu aussi des moments où le Saint-Esprit a soufflé. Alors, il faut toujours faire très attention. Dieu échappe à toute possibilité d'être catégorisé. Voyez-vous? D'être mis quelque part dans une bouteille en disant « ça c'est Dieu, il agit toujours comme ça oui. ». Non, mes amis, il échappe à tout cela. Il est au-dessus, il est au-delà, il est dans tout. Alléluia. Alors comment catégoriser quelqu'un comme Dieu oui. La conscience que nous devons, plutôt la foi que nous devons garder, nous devons développer dans une conscience pure. En d'autres mots, c'est la conscience qui va préparer le terrain, le sol, le rendre fertile, afin que la semence de la parole de Dieu, en tombant sur ce terrain rendu fertile, eh bien, puisse germer, alléluia, et produire du fruit. Et là, nous disons, il y a la foi. La conscience, mes amis, c'est quelque chose d'important dans notre vie. L'apôtre Paul, un des champions de la foi chrétienne, en parle. Nous pouvons voir comment dans sa propre vie, il a tout fait. Mes amis, pour servir Dieu avec une conscience irréprochable, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Quand il avait été accusé injustement par les Juifs et traîné devant le gouverneur Félix, eh bien, cet homme se défend. Et dans sa défense, écoutez ce qu'il dit. Lorsqu'il est présent sa défense, il dit, « C'est pourquoi je m'efforce, écoutez, je m'efforce de garder sans cesse une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. » Alléluia. Devant les hommes, c'est-à-dire devant mes frères juifs, je suis irréprochable. Devant Dieu, je le suis également. C'est pourquoi, une autre version dit, je m'exerce. Donc il y a un effort à consentir. Il y a un travail à faire sur notre propre conscience, sur nous-mêmes. Il dit, je m'exerce d'avoir constamment, donc c'est un combat de tous les jours, constamment, une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Voyez-vous ? Non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Est-ce que ta conscience te reproche quelque chose? Ça ne sert à rien de vouloir étouffer la voix de ta conscience. Si tu n'es pas en règle avec quelqu'un, si tu gardes des choses dans ton cœur, c'est que ta conscience te reproche. Alors ça ne sert à rien de jouer, mes amis, à l'hypocrite et de vouloir faire fi de tout ça en disant, ah oui, mais de toute façon, j'ai déjà pardonné, ça ne dépend pas de moi. Oh Seigneur, mais... Suis, entends la voix de la conscience. Devant le Sanhédrin, où il avait été aussi, traîné toujours à cause de sa foi en Christ, du fait qu'il avait tourné le dos à la tradition, aux traditions juives, pour croire en Jésus et marcher avec lui, et se mettre à prêcher à tout le monde que c'était lui et celui le Messie, qu'il fallait abandonner toutes ces fausses traditions et se tourner vers lui. Il est donc arrêté, il est traîné devant cette instance juive qu'on appelait le Sanhédrin. Et là, la Bible nous dit, dans Actes 23, verset 1er, « Des yeux fixés sur le Sanhédrin, Paul déclara ceci. « Frères, » il s'adresse à ses frères juifs, « c'est avec une conscience irréprochable. » Ou alors, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit envers Dieu jusqu'à ce jour. C'est avec une conscience irréprochable que je me suis conduit envers Dieu. Mon frère, ma sœur, regarde à ton état. Quel est l'état de ta conscience? Peut-être même alors que je parle de ça. Eh bien, ta conscience t'accuse de mille et une choses. Ta conscience n'est pas tranquille. Tu donnes l'impression aux gens d'être très engagés. Mais, seul au travail, tu tripotes tes collègues féminines. Tu tripatouilles. Tu fais ce que tu veux, mais quand tu dis « Alléluia !» Mais ta conscience t'accuse. C'est cette petite voix qui te dit « hypocrite. » Et dans la plupart des cas, au nom de Jésus. Alléluia. Et le nom de Jésus devient comme un nom magique. Voyez-vous? Donc, et dans 2 Timothée, il continue en disant « Dieu que je sers avec une conscience pure. » Mes amis, la parole de Dieu nous exhorte à garder le mystère de la foi dans une conscience pure, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que tant qu'il n'y a pas la pureté de la conscience, il est donc impossible, mes amis, que nous gardions le mystère de la foi, que notre foi croisse, grandisse et nous amène à expérimenter de grandes choses. Non seulement la Bible nous appelle, nous exhorte, nous encourage à garder notre conscience plutôt à garder le mystère de la foi dans une conscience pure, mais nous l'avons lu. La parole de Dieu nous appelle, nous encourage à combattre le bon combat, comment? En gardant la foi et une bonne conscience. Pourquoi devons-nous la garder? Pourquoi devons-nous veiller sur cette conscience? C'est parce qu'il y a possibilité de la perdre. Il y a possibilité, mes amis, de rejeter cette bonne conscience. Car, nous l'avons lu, l'apôtre Paul ajoute, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée. Cette conscience, quelques-uns l'ont répudiée. Il y a une version qui dit ça. Hein? L'ont répudiée. Et pour avoir répudié la conscience, pour l'avoir rejetée, pour l'avoir abandonnée, mes amis, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ces gens-là ont fini par faire naufrage par rapport à leur foi. Ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Mes amis, nous avons tout intérêt. Tout intérêt à garder notre conscience pure, notre conscience vivante, notre conscience irréprochable, car il y va de notre foi. Et corollairement, il y va de notre salut, de notre marche avec le Seigneur, de nos expérimentations quant à la parole de Dieu. Car dans notre relation avec le Seigneur, dans notre marche avec Dieu, la foi occupe une place unique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons veiller. Nous devons surveiller. C'est ça le verbe garder. Nous devons prendre soin de notre conscience. Nous devrions veiller sur notre conscience, mes amis, comme sur notre cœur, plus que sur toute autre chose. Ne pas permettre au moindre sentiment de pouvoir quelque part, eh bien, venir déstabiliser notre conscience. Autrement, nous risquerions de faire naufrage par rapport à notre foi. J'aime beaucoup cette image du naufrage. Voyez-vous? J'aime beaucoup cette image du naufrage, car faire naufrage, c'est couler, non? Oui. La barque ou le bateau navigue dans les eaux de la mer ou sur le fleuve, et pour l'une ou l'autre raison, eh bien, le bateau chavire et fait naufrage, c'est-à-dire il coule. Et ainsi, quand on parle de couler, cela veut dire disparaître sous le flot, oui ou non? Eh bien, notre foi risque de connaître ce sort-là si nous ne veillons pas sur notre conscience, si nous agissons avec inconséquence, avec légèreté vis-à-vis de nous-mêmes, si nous essayons de trouver toutes sortes d'excuses, comme nous allons le voir. Car à un certain moment, il y a ce qu'on appelle le syndrome d'excusite. Vous connaissez ça? C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on excuse tout. Oui ou non? On n'est pas sérieux, on est léger. Avec ses collègues, de temps en temps, on regarde que toi, Yopé. Alors qu'on est marié, hein? Vous voyez? Après, on excuse tout. De temps en autre, hein, des paroles grotesques, oui. De la familiarité avec la gente féminine, incroyante, je dis bien incroyante, oui. La légèreté vis-à-vis des collègues masculins, on prend trop léger, toi aussi, hein. Nous devons être sérieux, c'est ainsi que beaucoup surfent sur cette naïveté, sur cette faiblesse d'esprit, pour manipuler surtout les femmes. S'il y a des faux prophètes, et il y en a dans Kinshasa, qui sévissent et qui font des dégâts terribles, qui sont à la base, mes amis, de toutes sortes de problèmes dans des couples, c'est parce que dans la plupart des cas, les gens sont faibles d'esprit. Ils sont manipulés. Ils suivent tout ce que le prophète dit. Ce n'est pas biblique. qu'un homme ne s'érige jamais en votre directeur de conscience. Si un homme arrive à avoir une telle influence sur vous, c'est que cette influence ne vient pas de Dieu. Voyez, c'est comme un caïman. Quand il vous tient là, et Dieu ne nous tient pas comme ça, Dieu fait toujours appel à notre volontaire. Si tu obéis, alors je ferai ceci, je ferai cela. Si tu reviens, avec Dieu c'est comme ça. Dieu n'agit pas avec nous comme nous agissons avec nos ordinateurs ou nous réagissons avec nos ordinateurs. Nous donnons les informations et puis l'ordinateur fait tout, pas du tout. Nous ne sommes pas des automates religieux. C'est pourquoi, mes amis, la réflexion a sa place. Je méditais encore là-dessus hier. La réflexion a sa place dans la vie d'un homme ou d'une femme de Dieu, dans la vie de tout enfant de Dieu. Voyez, la réflexion n'est pas réservée qu'aux théologiens, ni aux philosophes, ni aux scientifiques. Voyez-vous? Nous devons réfléchir. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons veiller, garder notre conscience. C'est notre responsabilité. Et pour cela, Dieu nous demandera de compte. Car si nous ne faisons pas attention, si notre conscience, mes amis, nous reproche de plus en plus, elle est de plus en plus rendue impire, eh bien nous risquons de faire naufrage par rapport à notre foi. Et comme vous le savez, un naufrage, c'est quoi? Ben, c'est une ruine totale. Hein? Quand on dit que, oh là là, quand on parle du naufrage d'une entreprise, ça veut dire que l'entreprise est par. Et notre foi risque d'être ruinée si nous ne faisons pas attention par rapport à notre conscience. Vous voyez? Nous devons surveiller notre conscience, la protéger, faire en sorte qu'elle reste constamment en contact avec la parole de Dieu. Car il y a moyen de la tuer. Il y a moyen, mes amis, de la répudier comme un homme répudie sa femme, n'est-ce pas? Il y a moyen de la rejeter. Il y a moyen de la perdre. Et on peut perdre cette bonne conscience et continuer, mes amis, à croire, entre guillemets, en Dieu. À venir même chanter. Et la parole ne vous dit plus rien. Vous entendez la parole, vous rentrez et vous vivez dans le péché. Eh oui, eh oui. Comme un auteur américain l'avait dit, la conscience, elle, ne vous empêchera jamais de pécher. Vous savez ça? Mais elle vous empêchera de jouir du péché. Parce qu'elle va vous rappeler. Vous savez que les gens qui trompent leur femme ne savent pas que c'est de la tromperie, entre guillemets. Vous pensez que c'est des fous? Ou ils sont drogués? Hein? Dites-moi. Mais ils sont conscients. Et pourtant, ils savent que cela est... Ils ont tué leur conscience. Voyez? La conscience, à force de leur parler, de leur interpeller, ils ont tout fait pour l'étouffer, et souvent en recourant à des faux enseignements. Voyez-vous? On va faire comprendre à quelqu'un, il dit, mais... Dieu me dit, frère, que ta femme là n'est pas la femme du plan divin. Et vous avez des gens qui ont une tête pour croire dans des stupidités, dans des inepties pareilles. C'est incroyable. Donc, Dieu se serait trompé. Il attend que tu te maries et tout ça, tu as des enfants. Et puis un jour, il vient murmurer, chuchoter à l'oreille, je ne sais de quel prophète. C'est moi qui te parle, dis-lui que ce n'est pas ma là. Et ça fait beaucoup de dégâts. Et dans la plupart des cas, comme les gens ont une conscience qui est complètement léthargique, qui a versé, qui a sombré dans la somnolence, eh bien, dans la plupart des cas, elle dit, ah, moi aussi, je me suis rendu compte, prophète. Oui, oui, je me suis rendu compte. Oui, oui, j'ai vu. Depuis que... Maintenant, je comprends. Tous les problèmes... Ah oui, vous avez raison. Mais quand on vous dit ça, que cette femme n'est pas la femme venant de la part de Dieu, on vous suggère quoi? Je pose la question. on vous suggère quoi? Donc ça veut dire quoi? On vous pousse à aller à l'encontre de cette parole du Seigneur qui dit que personne ne sépare ce que Dieu a. Donc ça ne peut pas venir de Dieu. Sans aucune raison. Tu te réveilles, oh, le prophète a dit. Quand tu la regardes, non, c'est une sorcière. Ah, Seigneur, garde-moi. Garde-moi. Ou alors vice-versa. Tu le regardes et dis, oh là 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 là, ah, Seigneur, pourquoi tu m'as fait rencontrer cet homme-là? Mais parce que tu es tout le temps arrosé par des fausses prophéties. Il y a des vraies prophéties. Nous l'avons lu. Paul dit, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, et que tu combattes le bon combat en gardant dans une conscience. Ah. Donc les vraies prophéties contribuent à la purification de la conscience. Amène les gens à combattre de manière irréprochable. Mais lorsqu'une prophétie t'amène et dit arrache, ce n'est pas la femme de cet homme-là, alors que toi tu n'es qu'une maîtresse, eh bien, et tu te mets, tu ne peux pas dire que tu combats le bon combat, hein, car le bon combat se fait dans la vérité. Alléluia. Et dans la soumission à la parole de Dieu. Et la vraie prophétie, la vraie vision va toujours dans le sens de l'édification et de la gloire de Dieu. Tu devrais te poser la question, dis-moi, au fait, est-ce que Dieu peut vraiment dire ça? Est-ce que Dieu peut m'aimer, moi, plus que la femme de cet homme-là? Comment Dieu se mettrait seulement en peine de toi? Tu trouves que tu es spécial? Parce que tu as des yeux bridés? Non. Ou parce que tu es un bel homme? Nous sommes tous beaux. Mais... Oui ou non? Je sais qu'il y a des critères de beauté selon les cultures. Nous avons la culture d'en haut. Et la culture d'en haut. Et la culture d'en haut dit, c'est est exprimé par ce cri de reconnaissance envers du Seigneur qui vient de la part du psalmiste. Je te loue de ce que je suis une créature. Alléluia. Voyez, vous êtes beaux, hein, les pasteurs. Vous voyez que quand leurs épouses les regardent, ils voient le crâne rasé. Ils voient des belles hommes, des beaux hommes. Alléluia. Mais vous êtes des belles femmes. N'essayez pas de tomber dans ces pièges. Vous voyez? Où il y a des clichés de beauté selon les cultures. Une belle femme, ça doit être svelte, ça doit être comme une abeille ou je ne sais pas quoi. Une guêpe, la taille de guêpe, avec des omoplates ressorties, marchant comme un paon, avec des épaules carrées ou rectangulaires. Ça, ce sont les hommes. Vous pouvez avoir des épaules hémisphériques, rondes, peu importe. Pour Dieu, toutes ces figures géométriques ne disent, oh, il est beau parce qu'il a un menton carré. Ça, ce sont des choses qui viennent des hommes. Nous sommes tous beaux. Quand vous regardez dans le miroir, rendez grâce à Dieu. Pour ce que vous êtes, c'est tout. C'est parce que les gens voudraient être comme les autres. Eh bien, qu'ils se sentent complexés. Oui. Quand ils reviennent, ils regardent sa femme. Ah. Bon, je continue. Nous devons donc garder notre conscience pure, au risque de la tuer, de la répudier. Et ça serait un naufrage pour nous. Ça serait la ruine de notre foi. Vous voyez? On rencontre l'histoire d'un homme. Oh, qu'est-ce que le temps passe vite, c'est pas vrai. On raconte, je disais, l'histoire d'un homme qui, après une journée de travail, très fatigué, rentra chez lui, prit sa douche et alla se jeter dans son lit pour dormir, n'est-ce pas? Et pendant qu'il dormait profondément, les cambrioleurs sont arrivés. Mais cet homme avait un chien qui était attaché dans sa parcelle. Et entendre le bruit des cambrioleurs, à la vue de ces cambrioleurs, eh bien, le chien se mit à aboyer. Voyez? Ce qui fit évidemment, fit réveiller son maître. Voyez? Il essaya de se retourner dans le lit, pas possible. Il marmonna en disant, mais c'est pas possible de dormir tranquille, ce maudit chien. Voyez? Et le chien aboyait de plus en plus fort. Il sort de son lit, il part, il ouvre la fenêtre, il crie sur son chien. Mais le chien qui voit son maître se calme, non? Il est rassuré. Aussitôt la fenêtre refermée, aussitôt qu'il retrouve son lit, à peine recouché, les aboiements reprennent et en se faisant de plus en plus forts, alors cet homme, n'en pouvant plus, il s'est dit, écoutez, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de sommeil. Il avait une carabine. Il prit sa carabine, il sortit. Quand le chien le voit, évidemment le maître est là, il se calme, il agite sa queue, mais le chien ignorait l'intention de son maître. Le maître le mit en joue, il tira et finit par tuer son chien. Voyez? Et il rentra dans son lit en disant, maintenant, je vais dormir tranquille. Et il dormit tranquillement. Mais puisque le chien qui aboyait parce qu'il y avait des cambrioleurs était tué, désormais le champ était libre. Les voleurs pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Voyez-vous? Cette histoire peut vous choquer, même vous révolter. Mais n'est-ce pas de cette manière que beaucoup d'entre nous agissent par rapport à leur propre conscience? Quand la conscience commence à les interpeller, eh bien, ils cherchent à tout faire pour étouffer cette voix. Il y en a même qui quittent l'église, la borne, pour aller ailleurs. Ah oui, mais là, il n'y a pas de puissance. Mais c'est une manière de fuir, parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, le Seigneur agite leur conscience. Leur conscience les interpelle. Vous voyez? Alors, n'en pouvant plus, ah non, moi je ne peux plus, je me sens plus bien. Moi, je vais aller à gauche, à droite. Et ils vont chercher à aller là où on peut leur dire des choses qui leur sont agréables aux oreilles, des choses qui vont contribuer à caresser, à cajoler la conscience. Où finalement, on ne prêche pas la parole, mais où il n'y a que des prophéties. On joue le tam-tam, on crée une situation, une atmosphère très très forte, au point où les gens commencent à tomber. Pensant que c'est le Saint-Esprit, alors que c'est des délires, les gens sont pris comme par une névrose collective. Ils se mettent à délirer parce que le bruit et tout ça, vous savez, avec le bruit et tout ça, avec l'agitation, vous pouvez vous retrouver emporté par l'excitation, vous ne vous contrôlez plus. Émotionnellement, et comme les gens ici sont naïfs, les gens ne cherchent jamais à comprendre. Oh, le Saint-Esprit, prie encore. Alors les gens sortent. Oui, mais on trouve ce genre d'ambiance dans des concerts où il y a beaucoup de bruit. Il y a des gens qui tombent. Les gens qui ne peuvent pas contenir leur émotion. On le voit bien avec les vedettes, toutes ces petites filles qui tombent. Et puis, hop, vous pensez que c'est le Saint-Esprit? Donc, nous tuons notre conscience. Et pourtant, c'est que le Seigneur voudrait. Je vais terminer par là, nous continuerons la semaine prochaine. Eh bien, c'est que nous fassions tout pour ne pas tuer. Que nous laissions notre conscience être exposée constamment à la parole de Dieu. Lorsque la parole nous interpelle, mes amis, n'essayons pas de trouver des excuses. Pas du tout. N'essayons pas, mes amis, de trouver que non, le pasteur exagère. Ah oui, mais c'est pas comme ça, etc. Non, laissons simplement le Saint-Esprit nous aider à mettre notre conscience en règle en nous repentant ou alors en allant réparer. Il y a deux choses. Vous avez eu des affaires, des problèmes avec quelqu'un. Vous demandez pardon au Seigneur, c'est bien. Voyez? Mais quelquefois, il faut aller voir la personne. Alléluia. Il faut aller voir la personne, lui demander pardon. Alors, à ce moment-là, vous coupez l'herbe sous les pieds du diable. Il ne pourra plus venir secouer votre conscience en disant non. Regarde, il ne t'aime toujours pas. Hein? Regarde. Ah oui, c'est vrai. Oh Seigneur, moi j'ai déjà pardonné. Au nom de Jésus, j'ai déjà pardonné. Oui, non, il faut aller réparer. Parce qu'en réparant, vous parlez. Alléluia. Et la paix vient s'installer. Oh, gloire au Seigneur. C'est comme dans un couple. Vous avez des problèmes. Vous pouvez prier. Vous retrouvez chacun dans son coin. L'autre aussi dans son coin. Vous allez dans la chambre, vous ne vous regardez pas. Vous pensez que Dieu a entendu une telle prière. Non. Là, c'est de la religion. C'est que Dieu entend. Que chacun puisse transcender son ego pour aller vers l'autre, sa femme, et dire, ma chérie, mon chou, ma carotte. Voilà mon attitude. Je suis convaincu, t'as fait du mal et tout ça, pardonne-moi. La femme aussi. Chérie, oui, c'est vrai, moi aussi, etc. Et après, vous priez, vous réconciliez. Alléluia. Amen. Mais vous laissez, vous pensez qu'avec le temps, ça va partir. Non, vous étouffez simplement le sentiment. Et dans de telles conditions, la foi ne peut pas éclore. Alléluia. Il ne peut pas y avoir floraison de la foi. Alléluia. Eh bien, nous devons donc nous tenir constamment devant Dieu et laisser Dieu nous enseigner. Alléluia. Oui, Paul l'a dit, et le Seigneur nous le rappelle, combattons le bon combat, eh bien, en gardant notre conscience, puis notre foi et une bonne, la conscience n'a pas de prix. Alors, je voudrais demander à chacun de nous d'incliner sa tête dans la prière. Je voudrais demander à tout celui qui, à l'écoute de ce message, se rend compte qu'effectivement, sa conscience le dérange ou la dérange. Ta conscience te reproche quelque chose. Laisse-toi éclairer par le Saint-Esprit. Que tu saches exactement ce dont il est question par rapport à ta conscience. Et demande pardon. Et s'il faut réparer, mon frère et ma sœur, je te demande de le faire. Je te demande de demander pardon, Seigneur. Et de te mettre en règle en allant voir la personne pour lui demander pardon, pour réparer. Peut-être tu gardes des choses qui ne sont pas à toi. Tu as demandé pardon au Seigneur, il t'a pardonné. Mais il faut aller remettre cela. Tu es sûr que tu as racheté des choses volées. Ouais. Mais tu essaies de dire, ah oui, mais non, je ne sais pas. Bon, ouais, Dieu est tout. Mais non, Dieu n'est pas tout. Réalise que ce sont des choses. Comment voulez-vous que votre voisin, qui ne travaille pas, qui ne... un jour débarque avec un téléviseur et vous propose de vous le vendre? Vous ne demandez même pas d'où ça vient. Vous faites tout pour ne pas savoir. Alors qu'il y a une petite voix qui dit, ah, cet homme-là, tu es sûr que ce téléviseur, il a bien eu ou alors il a pris, oh, quelqu'un a eu ma dette, tout ça. Il faut réfléchir. Si tel est ton cas, parle. Demande pardon, Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi t'aveugler, te laisser dans cette situation où ta conscience, eh bien, s'endort de plus en plus. Et l'endormissement de la conscience, la léthargie de la conscience équivaut à sa mort. Et quand la conscience meurt de plus en plus, eh bien, notre foi aussi tombe de plus en plus en ruine. Car il y a un lien entre les deux. Notre Père et notre Dieu, nous nous tenons devant toi pour implorer ta grâce. Seigneur, tu nous demandes, ô Dieu, de marcher avec toi par la foi. Mais cette foi ne peut être gardée, Seigneur, conservée que dans une conscience pure. Alors aide-nous à nous débarrasser de toutes ces choses qui souillent notre conscience, de tous ces péchés, ces fausses prophéties. Seigneur, qui nous amène à avoir un comportement qui va à l'encontre de ta parole. Aide-nous, ô Dieu, Seigneur, à grandir dans le domaine de la conscience, à réaliser la nécessité de garder notre conscience pure. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. S'il te plaît, éloigne de nous, Seigneur, toute légèreté. Éloigne de nous toute excuse. Que nous nous tenions très objectivement devant toi, avec la sincérité du cœur, pour réaliser combien, Seigneur, nous sommes coupables par rapport à ceci, par rapport à cela. Oh, pardonne, Seigneur, à ceux qui doivent réparer, à ceux qui doivent prendre, Seigneur, faire cette démarche de réparation, de demande de pardon, de réconciliation. Oh, je prie pour que tu leur donnes la force, Seigneur, de le faire, afin que leur conscience soit tranquille, afin que leur conscience soit débarrassée de ces sentiments impurs, de ces sentiments de culpabilité, et que leur conscience devienne irréprochable à tes yeux. C'est de cette manière que leur foi grandira et qu'ils avanceront, Seigneur, dans leur marche avec toi. Oh, merci Jésus. Merci pour tout. Merci Maître. Nous voulons, alors que nous avons nos têtes baissées devant toi, Seigneur, alors que nous sommes encore dans cette attitude de prière et de recueillement devant toi, nous voulons recommander, Seigneur, le service des offrandes, des dîmes, que là aussi, Seigneur, peut-être que notre conscience nous reproche de ne pas être fidèle dans nos dîmes. Oh, je prie pour que tu pardonnes, Seigneur, à tous ceux-là, et qu'ils prennent la résolution d'être fidèles. Seigneur, car nous ne pouvons pas avancer en ayant ce genre de sentiments qui nous reprochent. Ce que tu demandes, c'est que nous te servions avec une conscience irréprochable. Bénis ce service, qu'il soit, Seigneur, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen.